Lit frère, lit maître du temple.
Et in Arcadia ego. Ce soir-là, Pilade était l'image de l'âge d'or. Une de ces soirées où vous sentez que non seulement la révolution se fera, mais qu'elle sera sponsorisée par l'Union des industriels. On ne pouvait voir que chez Pilade le propriétaire d'une filature de coton, en duffelcoat et barbe, jouer au 421 avec un futur accusé en cavale, en costume croisé et cravate. Nous étions à l'aube d'un grand renversement de paradigme. Au début des années 60, la barbe était encore fasciste. Mais il fallait en dessiner le contour en la rasant sur les joues à la Italo Balbo. En 68, elle avait été contestataire, et à présent, elle devenait neutre et universelle. Choix de liberté. La barbe a toujours été un masque. On se met une barbe postiche pour ne pas être reconnu. Mais en ce début des années 70, on pouvait se camoufler derrière une vraie barbe. On pouvait mentir en disant la vérité, mieux, en rendant la vérité énigmatique et fuyante, car face à une barbe, on ne pouvait plus en déduire l'idéologie du barbu. Mais ce soir-là, la barbe resplendissait même sur les visages glabres de ceux qui, tout en ne la portant pas, laissaient comprendre qu'ils auraient pu la cultiver et n'y avaient renoncé que par défi. Je divague. À un moment donné, arrivèrent Belbo et Diotalevi, se murmurant à tour de rôle, la mine défaite d'âcres commentaires sur leur très récent dîner. Plus tard seulement, j'apprendrai ce qu'étaient les dîners de M. Garamond. Belbo passa tout de suite à ses distillats préférés. Diotalevi réfléchit un bon moment, hébété, et se décida pour un tonique sans alcool. Nous trouvâmes une table au fond à peine laissée libre par deux traminots qui, le lendemain matin, devaient se lever tôt. « Alors, dit Diotalevi, c'est Templier ?»« Non, à présent, s'il vous plaît, ne me mettez pas dans l'embarras. Ce sont des choses que vous pouvez lire partout. » « Nous sommes pour la tradition orale, dit Belbo. »« Elle est plus mystique, dit Diotalevi. Dieu a créé le monde en parlant, que l'on sache. Il n'a pas envoyé un télégramme. »« Fiat lux stop, lettre suit, dit Belbo. »« Ô Thessaloniciens, j'imagine, dis-je. » »« Les Templiers, demanda Belbo. » »« Donc, dis-je, on ne commence jamais par donc, objecta Diotalevi. » Je fis le geste de me lever. J'attendis qu'il m'implore, il n'en fire rien. Je m'installai et me mis à parler. Non, je veux dire que l'histoire, tout le monde la connaît. Il y a la première croisade, d'accord? Godefroy, qui le grand sépulcre adore et délie le vœu. Baudouin devient le premier roi d'une Jérusalem délivrée. Un royaume chrétien en Terre Sainte. Mais une chose est de tenir Jérusalem, une autre chose le reste de la Palestine. Les Sarrasins ont été battus, mais pas éliminés. La vie dans ces contrées n'est pas facile, ni pour les nouveaux intronisés, ni pour les pèlerins. Et voici qu'en 1118, sous le règne de Baudouin II, arrivent 9 personnages guidés par un certain Hugues de Payns, qui constitue le premier noyau d'un ordre des pauvres chevaliers du Christ. Un ordre monastique, mais avec épée et armure. Les 3 vœux classiques, pauvreté, chasteté, obéissance, plus celui de la défense des pèlerins. Le roi, l'évêque, tous à Jérusalem, leur donnent aussitôt des aides en argent, les logent, les installent dans le cloître du vieux temple de Salomon, et voilà comment ils deviennent chevaliers du temple. Qui sont-ils? Hugues et les 8 premiers sont probablement des idéalistes, conquis par la mystique de la croisade. Mais par la suite, ce seront des cadets en quête d'aventure. Le nouveau royaume de Jérusalem est un peu la Californie de l'époque. On peut y faire fortune. Chez eux, ils n'ont pas tellement de perspectives, et il y en a parmi eux qui auront fait pique-pendre. Moi, je pense à cette affaire en termes de légion étrangère. Que faites-vous si vous êtes dans le pétrin? Vous vous faites templier. On voit des horizons nouveaux, on s'amuse, on se flanque des raclées, on vous nourrit, on vous habille, et à la fin, en sus, vous sauvez votre âme. Certes, il fallait être suffisamment désespéré, parce qu'il s'agissait d'aller dans le désert, et de dormir sous la tente, et de passer des jours et des jours sans voir âme qui vive, sauf les autres templiers et quelques têtes de turcs, et de chevaucher sous le soleil, et de souffrir de la soif, et d'étriper d'autres pauvres diables. Je m'arrêtais un instant. Je fais peut-être trop dans le western ? Il y a probablement une troisième phase. L'ordre est devenu puissant. On cherche à en faire partie, même si on a une bonne position dans sa patrie. Mais alors là, être templier ne veut pas dire travailler nécessairement en Terre Sainte. On est templier même chez soi. Histoire complexe. Tantôt, il donne l'impression d'une soldatesque. Tantôt, il se montre non dénué d'une certaine sensibilité. On ne peut pas dire, par exemple, qu'ils étaient racistes. Ils combattaient les musulmans, ils étaient là pour ça, mais avec l'esprit chevaleresque, et ils s'admiraient à tour de rôle. Lorsque l'ambassadeur de l'émir de Damas visite Jérusalem, les Templiers lui attribuent une petite mosquée, naguère transformée en église chrétienne, pour qu'il puisse faire ses dévotions. Un jour, entre un franc qui s'indigne en voyant un musulman dans un lieu sacré, et il le maltraite. Mais les Templiers chassent l'intolérant et présentent leurs excuses aux musulmans. Cette fraternité d'armes avec l'ennemi finira par les mener à la ruine, car au procès, on les accusera aussi d'avoir eu des rapports avec des sectes ésotériques musulmanes. Et c'est sans doute vrai. C'est un peu comme ces aventuriers du siècle passé qui attrapent le mal d'Afrique. Ils n'avaient pas une éducation monastique régulière, ils n'étaient pas si subtils qu'ils puissent saisir les différences théologiques. Imaginez-les comme au temps de Laurence d'Arabie, qui petit à petit s'habille comme des chèques. Mais au fond, il est difficile d'évaluer leurs actions. Parce que souvent, les historiographes chrétiens, tels Guillaume de Tyr, ne perdent aucune occasion de les dénigrer. Pourquoi ? Parce qu'ils deviennent trop puissants et trop vite. Tout arrive avec Saint Bernard. Vous l'avez présent à l'esprit, Saint Bernard ? Non ? Grand organisateur, il réforme l'ordre bénédictin, élimine les décorations des églises quand un collègue lui chatouille un peu trop les nerfs, tel Abélard. Il l'attaque à la McCarthy, et s'il pouvait, il le ferait monter sur le bûcher. Comme il ne le peut pas, il fait brûler ses livres. Puis il prêche la croisade. « Armons-nous et partez. »« Il ne vous est pas sympathique, » observa Belbeau. « Non, je ne peux pas le souffrir. S'il ne tenait qu'à moi, il finissait dans un des vilains cercles dantesques et pas sain pour un sou. Mais c'était un bon presse-agent de lui-même. Voyez le service que lui rend Dante. Il le nomme chef de cabinet de la Madone. Il devient saint sur le champ parce qu'il s'est macroté avec les gens qu'il fallait. Mais je parlais des Templiers. Bernard a aussitôt l'intuition qu'il faut cultiver l'idée et appuyer ces neuf aventuriers en les transformant en une militia Christi. Disons même que les Templiers, dans leur version héroïque, c'est lui qui les invente. En 1128, il fait convoquer un concile à Troyes, précisément pour définir ce que sont ces nouveaux moines soldats. Et quelques années plus tard, il écrit un éloge de cette milice du Christ, et il prépare une règle de 72 articles, amusant à lire parce qu'on y trouve de tout. Messe chaque jour, ils ne doivent pas fréquenter les chevaliers excommuniés, cependant, si l'un d'eux sollicite son admission au temple, il faut l'accueillir chrétiennement, et vous voyez que j'avais raison quand je parlais de légions étrangères. Ils porteront des manteaux blancs, simples, sans fourrure, à moins qu'elles ne soient d'agneau ou de mouton, interdit de porter selon la mode de fines chaussures à bec, on dort en chemise et caleçon, une paillasse, un drap et une couverture. Avec cette chaleur, Dieu sait ce qu'ils devaient puer, dit Belbeau. Quant à leur puanteur, on en reparlera. La règle a d'autres rudesses. Une même écuelle pour deux. On mange en silence. Viande trois fois par semaine, pénitence le vendredi, on se lève à l'aube. Si le travail a été pénible, on accorde une heure de sommeil en plus, mais en échange, on doit réciter 13 pater au lit. Il y a un maître, toute une kyrielle de hiérarchie inférieure, jusqu'aux sergents, aux écuyers, aux servants et valets. Tout chevalier aura 3 chevaux et un écuyer. Aucune décoration de luxe aux brides, selles et éperons, des armes simples mais bonnes. La chasse est interdite, sauf la chasse au lion. Bref, une vie de pénitence et de bataille. Sans parler du vœu de chasteté, sur lequel on insiste particulièrement, car ces gens, qui ne demeuraient pas au couvent mais faisaient la guerre, vivaient au milieu du monde. Si on peut appeler monde le grouillement de vermine que devait être la Terre Sainte en ces temps-là. En somme, la règle dit que la compagnie d'une femme est des plus dangereuses et qu'on ne peut embrasser que sa mère, sa sœur et sa tante.